Sud Radio, les incorrectibles. Éric Morillo.
Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver ce dimanche pour la deuxième émission de cette troisième saison des Incorrectibles sur Sud Radio. Merci encore de votre fidélité à cette émission où la langue de bois, vous le savez, n'a pas sa place. Alors comme chaque dimanche, je le rappelle, nous sommes en direct. Vous pouvez donc nous écouter bien entendu sur Sud Radio, mais aussi nous voir en live sur Facebook via la page Sud Radio ou encore en replay sur YouTube. C'est donc parti pour un nouvel épisode des Incorrectibles. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
Sud Radio, les incorrectibles. Éric Morillo.
Alors, mon invité du jour est un homme politique, passionné depuis l'adolescence par le débat public et les valeurs du gaullisme. Ancien membre de l'UMP, il fonde en 2008 le parti Debout la France, dont il est aujourd'hui toujours président. Ancien maire de Hyères, de 1995 à 2017, il est depuis 1997 député de l'Essonne. Candidat aux élections présidentielles de 2012 et de 2017, il a créé la surprise lors du dernier entre-deux-tours en annonçant son soutien à Marine Le Pen, on en reparlera. Ses coups d'éclat médiatiques lui ont valu nombreuses critiques. Il est à nos côtés en cette seconde démission de rentrée, je le disais, pour s'en défendre et nous donner son point de vue sur la riche actualité du moment et les enjeux à venir, et notamment, bien sûr, avant les universités de rentrée de son mouvement Debout la France. Elles sont ouvertes à tous et elles se tiendront le 26 septembre au Cirque d'Hiver à Paris. Nicolas Dupont-Aignan, bonjour.
Bonjour à vous.
Merci d'avoir accepté l'invitation des Incorrectibles sur Sud Radio. Alors, bien sûr, on va revenir tout d'abord sur l'actualité la plus récente, à savoir le retour des manifestations des Gilets jaunes. La journée d'hier a marqué le grand retour de ce mouvement. Environ 6000 personnes auraient manifesté dans toute la France, dont 2500 à Paris, selon le décompte annoncé par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Le préfet de police avait interdit les rassemblements, à compter pourtant du vendredi à 18h, dans plusieurs secteurs de la capitale, ainsi que deux manifestations de samedi. L'une des figures de proue du mouvement, Jérôme Rodriguez, avait quant à lui appelé à la désobéissance civile, en refusant par exemple de décliner son identité aux forces de l'ordre. Quel regard vous portez sur ce mouvement, Nicolas Dupont-Aignan ? Vous le soutenez ou vous êtes comme le préfet l'Allemand, vous pensez qu'il a eu raison de l'empêcher, selon vous?
Ce mouvement, au départ, était un mouvement sincère, calme, de protestation contre le racket fiscal. On est dans un pays où on paye énormément et où il y a un gaspillage tel que les Français qui travaillent, honnêtes, ne peuvent plus vivre du fruit de leur travail. Et ce mouvement, je l'ai beaucoup soutenu au départ. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, quand M. Rodriguez traite les policiers de nazis, on est en plein délire. Et on voit bien que des gens sincères au départ ont été complètement trompés par des excités. Et je crois aujourd'hui que l'enjeu, c'est la transformation positive d'un mouvement de colère sociale qui était légitime au départ, mais qui a posé tellement de problèmes que beaucoup de Français s'en sont détournés. Donc moi, l'enjeu aujourd'hui, j'ai envie de dire aux Gilets jaunes, que je sais sincère pour certains, revenez dans le combat politique parce qu'il va y avoir des élections. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est notamment aux européennes et puis ensuite de rencontrer beaucoup de gilets jaunes qui ont passé des nuits sur les ronds-points, de manière d'ailleurs très pacifique, parce qu'on a montré toujours les violents, mais on n'a jamais montré les pacifiques. Et ces gens pacifiques me disaient « on va pas voter, ça sert à rien ». Ben, je leur dis « non, vous avez été courageux à un moment ». Le pouvoir, par une répression d'ailleurs terrible, a exacerbé les tensions. Maintenant, il y a des élections dans moins de 2 ans. Et la question centrale pour laquelle je me bats, c'est je ne veux pas voir Macron réélu et je veux une belle alternative pour notre pays. Donc, ne sombrez pas dans des manifestations qui ne servent plus à rien, qui ne servent que Macron, qui les a instrumentalisées à son profit. Et reprenons le chemin de l'action politique. Parce que c'est par les urnes et en convainquant les Français qu'on pourra gagner.
Vous trouvez donc justifié la plainte déposée à l'encontre de Jérôme Rodriguez par M. Darmanin?
Mais
suite
écoutez,
à ce tweet comparant donc les policiers au rappel à des nazis.
Je crois que j'ai pas envie de rentrer là-dedans parce que si vous voulez, on peut pas traiter les policiers français de nazis. Enfin, ça tourne pas rond, quoi. Et on décrédibilise tout un mouvement de colère sociale qui a été justifié. Donc, moi, je suis un homme politique sérieux. Je veux qu'en 2022, on ait chassé Emmanuel Macron du pouvoir. Et je veux qu'on le fasse par les urnes et pas par la rue. Et je pense que la meilleure façon de le faire, c'est par un projet cohérent, par du sérieux, par le rassemblement et pas par une stratégie jusqu'au boutiste qui sert Macron, en fait. Emmanuel Macron se sert de violence qu'il... on va pas revenir sur le passé, pour finalement se légitimer. et à couper le mouvement initial.
Alors, on parle d'un retour en demi-teinte. Vous pensez que ce mouvement donc, peut reprendre vraiment ou
mais ce mouvement dans le cœur des Français, s'il s'agit de dire comment se fait-il que le pays où on paye le plus d'impôts au monde et un hôpital dans le désastre, des infirmières sous-payées, des policiers sous-payés, des enseignants sous-payés, le désordre, l'absence de place de prison, des charges excessives pour nos PME, bah, ça c'est justifié. C'était le début des Gilets jaunes. Si en revanche, c'est de faire n'importe quoi dans les rues de Paris et d'empêcher les gens de travailler et de tuer le commerce, ça sert à rien. Donc il faut revenir au bon sens. Moi, j'essaye d'être de bon sens depuis un certain nombre d'années et c'est pourquoi je crois que nous progressons.
Alors justement, parlons à présent de cette crise sanitaire sur un plan économique, une crise économique inévitable. Le gouvernement a annoncé un plan Relance France, je cite, de 100 milliards d'euros. Vous y croyez ou ce n'est qu'un plan de com' à vos yeux ?
C'est un plan de communication, comme depuis le début. Il y a eu une bonne mesure, parce que je crois qu'il faut être juste, et en tout cas moi j'attends d'un homme politique, et des autres, donc j'essaye de le faire pour moi-même, d'être juste, pas être politicien. Il y a eu une bonne mesure depuis le départ, c'est le chômage, et le chômage partiel. Ça, ça a marché. En revanche, il y a une grande mystification, un grand mensonge du gouvernement, c'est qu'il a fait croire qu'il déversait des milliards, et qu'en vérité, les PME, les TPE, les commerçants, les artisans ont eu une petite aide de 1500 euros et sinon des prêts. Mais les prêts ne règlent pas le problème. Au contraire, le gouvernement a mis un mur de dette dans les PME. Hier, j'étais dans ma circonscription, je vais vous raconter une anecdote. Un fleuriste que je vois, il me dit « J'ai perdu 50 000 euros de chiffre d'affaires sur 170 000. J'ai été obligé de licencier ma salariée qui était là depuis 2006. Je vais fermer ma boutique. » Pourquoi ? Parce que le gouvernement français a refusé, j'insiste, d'annuler les charges sociales du deuxième trimestre 2020, pendant lequel plein de boutiques étaient obligées d'être fermées. Et ce faisant, eh bien, il précipite maintenant, et pour les 6 mois qui viennent, des dizaines de milliers d'entreprises dans la faillite. Des centaines de milliers de licenciements. Or, nous, nous avions proposé à Debout la France d'annuler les charges sociales du deuxième trimestre, 35 milliards d'euros, pour éviter un report de charges. Parce qu'aujourd'hui, en cette rentrée, tous ceux qui m'écoutent, qui sont artisans, commerçants, le savent bien, eh ben, ils sont obligés de rembourser. Et aux États-Unis, par exemple, les prêts qui ont été faits sont sur 30 ans, avec possibilité de les annuler. En Allemagne, on annule les prêts. Or, en France, le gouvernement plonge nos PME dans le suicide, alors qu'il aide les grandes entreprises.
Vous pensez que la stratégie économique du gouvernement ne va faire que creuser le chômage et les inégalités ?
C'est une stratégie de communication. Il y a eu des bonnes choses de fait sur le chômage partiel, mais aujourd'hui, c'est terrible ce qui va se produire. Tout ça parce que le gouvernement n'a pas osé annuler les charges sociales du deuxième trimestre pour éponger définitivement. Et tous les chefs patrons le savent, il n'y a que les très bonnes entreprises qui avaient beaucoup de profits qui pouvaient se permettre de faire des emprunts. Parce qu'un emprunt, alors le gouvernement dit maintenant, oui, mais vous ne serez pas obligé de rembourser tout de suite, mais peut-être qu'on va vous donner un délai de 3 ans, de 5 ans. Mais ce n'est pas assez, parce que la reprise est très lente.
Nicolas Dupont-Aignan, président du mouvement Debout la France et député de l'Essonne, est notre invité sur Sud Radio dans Les Incorrectibles jusqu'à 14h. Nous sommes en direct, également sur les réseaux sociaux, où vous pouvez nous poser vos questions. À tout de suite.
Sud Radio, Les Incorrectibles. Éric Morillo.
De retour en direct dans Les Incorrectibles sur Sud Radio avec notre invité ce dimanche, c'est Nicolas Dupont-Aignan, président du mouvement Debout la France et député de l'Essonne. Alors on parle bien sûr de cette fracture sociale et de cette crise économique, bien sûr engendrée également par la crise sanitaire. Alors vous disiez, Nicolas Dupont-Aignan, sans patriotisme économique intelligent qui favorise l'emploi en France, l'argent public finance la relance de la Chine par des importations ou la relance polonaise avec les travailleurs détachés. Selon vous, Nicolas Dupont-Aignan, le gouvernement Macron n'a pas compris les leçons du Covid, à savoir se recentrer sur la production nationale et ne pas encourager la mondialisation. Vous qui disiez il y a quelque temps, Macron, je cite, c'est la mondialisation low cost.
Emmanuel Macron est un caméléon qui, en parole, sait sentir le vent. Mais tous ses actes contredisent ses paroles.
On est toujours dans une politique de soumission à l'Europe, selon vous, et à la
Chine. Ce qui est incroyable, c'est que Macron parle maintenant de souveraineté. Il est allé visiter une usine de médicaments qui produit en France, que je demande depuis 15 ans. Mais en vérité, quand vous regardez les actes, on importe tous nos masques. On a demandé aux entreprises françaises de produire des masques. Et puis l'État importe des masques du Vietnam et d'ailleurs. Parallèlement à tous les discours sur produire en France, l'Union européenne signe, avec l'accord de la France, des accords internationaux qui vont encore plus créer une concurrence déloyale. Si on continue à produire avec l'esclavage ailleurs des normes environnementales qui n'existent pas, eh ben on importe des produits qui obligatoirement tuent nos producteurs.
Alors quelles mesures vous préconisez, Nicolas Dupont-Aignan ?
Moi, c'est très simple.
Parlez de
plusieurs mesures. Il y a plusieurs mesures très simples. Il faut deux choses. Il faut d'abord baisser les charges de nos producteurs en France. Et il faut éviter la concurrence déloyale. C'est-à-dire, c'est un peu, vous savez, c'est un peu comme dans une bataille. Il faut l'épée et il faut le bouclier. Ben, l'épée, c'est qu'on baisse les charges de nos PME. Et comment on finance ? C'est en réduisant les gaspillages, on en parlera sur la fraude fiscale, sociale, en faisant payer les entreprises multinationales étrangères qui ne payent rien. Si vous êtes producteur avec 40 salariés en France, dans le Cantal ou en Bretagne, vous payez 10 fois plus de charges que si vous êtes une multinationale. Donc il y a un moment, il faut réinverser les choses. Et puis, donc je propose un crédit investissement, c'est-à-dire un crédit d'impôt. On baisse l'impôt de moitié quand on investit en France. Je veux un bonus. Et ça, je le propose depuis la présidentielle de 2017. Super bonus quand on produit en France, quand on investit en France. En revanche...
C'est-à-dire ?
Crédit d'impôt, c'est-à-dire en gros, ça divise par deux l'impôt sur les sociétés. C'est énorme. Et c'est ce qu'a fait Trump aux États-Unis pour relancer la machine. Quand un chef d'entreprise investit en France, il doit savoir qu'il va payer deux fois moins d'impôts. En revanche, celui qui importe, j'allais dire un tricorie des merdes du monde entier, oui. Eh bien, lui, il paye plein pot. C'est la seule solution. C'est la seule solution. Trump l'a fait, d'autres pays le font. Pourquoi nous, on ne le fait pas ? Deuxième point, ça c'est l'épée, si je peux dire, renforcer nos entreprises. Et puis le deuxième point, c'est le bouclier. C'est quand vous avez un pays qui triche avec toutes les règles du jeu. Qui, par exemple, vend ses panneaux solaires, comme les Chinois, à un coût inférieur au coût de production. C'est du dumping. C'est pour conquérir des marchés. Eh bien, il faut dire stop. Ce qu'on n'a jamais osé faire, c'est tout. Et si on ne fait pas ça par une taxe à l'importation, la Corée le fait, la Corée du Sud, le Japon, tous les pays qui réussissent se protègent. J'ai jamais demandé qu'on fasse une muraille, j'ai jamais demandé qu'on interdise le libre-échange. J'ai demandé, enfin je sais pas si vous allez à un combat de boxe, vous n'avez pas le droit de boxer en dessous de la ceinture. Si vous allez au rugby, il y a des règles. Il n'y a aucune règle aujourd'hui. Et moi je vois tous les jours des chefs d'entreprise, nos agriculteurs, nos éleveurs, qui crèvent parce que on va accepter de la viande du CETA canadienne, maintenant du Mercosur. Pendant le confinement, ils ont signé un accord avec le Vietnam. Donc voilà, il y a les discours de souveraineté pour la télé. Et puis dans la pratique, il n'y a pas de règle du jeu. Donc, toujours plus de délocalisation. Pareil pour les travailleurs détachés. Vous savez qu'il y a un plan de relance, mais les travailleurs détachés ne payent pas les charges sociales en France. J'étais sur un parking en venant de vacances sur l'autoroute. J'ai regardé les plaques d'immatriculation des camions. Ben, tout le monde peut le faire. Hein. Ben, regardez, voilà. Pourquoi ? Parce que ce sont des travailleurs détachés qui ne payent pas les charges sociales que paye un camionneur français.
Vous voulez dire qu'elles viennent d'où ces plaques ?
Ah ben, Pologne, Espagne. Mais je n'ai rien contre de nos amis polonais, espagnols et tout. Mais il n'est pas normal qu'une entreprise polonaise, espagnole, portugaise ou d'autres ne paye pas les mêmes charges sociales que le français. Je n'ai rien contre ces nationalités. J'accepte qu'ils viennent travailler en France à la condition qu'ils payent les mêmes charges. C'est quand même pas compliqué.
Baccara, Alstom, Alcatel, Lafarge, on compte plus le nombre de fleurons stratégiques et de pépites technologiques qui sont passés ces dernières années
aussi,
aux mains des investisseurs étrangers. Selon vous, Macron favorise ce pillage,
oui.
Vous diriez ça ?
Oui, mais je parle de pillage.
Mais la France en danger, selon vous ?
Oui, c'est de la haute trahison. Hein ? Emmanuel Macron a bradé Alstom et un jour, il devra répondre devant les tribunaux pour haute trahison. Et aujourd'hui, General Electric...
Ah oui, vous y allez fort, là.
Ah mais je le pense, donc je dis ce que je pense. General Electric licencie. On pourrait bloquer ces ventes. Il y a un décret Montebourg qui permet de les bloquer. Vous avez à Bercy des gens qui, obligatoirement, sont coupables et méritent une enquête pour pillage organisé. Regardez ce qui est en train de se produire. Regardez qui a été à pantoufler des hauts fonctionnaires. Pantoufler, vous savez, c'est quand des hauts fonctionnaires passent dans le privé.
Sont recasés.
Ceux qui sont partis à Bank of America et à d'autres. Donc,
vous pensez à quelqu'un en particulier ?
Je ne vais pas citer de nom là, tout le monde peut retrouver.
Bah, dites-le, non, parce que...
Non, je ne veux pas commencer là-dedans. Ce n'est pas le problème, je ne suis pas là pour désigner des cibles. Je suis là pour mettre en cause un système qui fait que des hauts fonctionnaires liés au pouvoir politique servent des intérêts étrangers au lieu de défendre les intérêts français. Et j'estime que quand ce sont des entreprises qui ont des pépites, il a bradé Technip, il a bradé Alstom, il a bradé Alcatel, il a bradé Lafarge, et j'en oublie encore un, 5. Et
Baccara,
c'est tout récent, il y a l'affaire Photonis, des entreprises de haute technologie, il faut les garder françaises. De même, j'avais demandé pendant le confinement, souvenez-vous de cette entreprise Luxfer qui produit des bouteilles d'oxygène, qui a été fermée. Monsieur le maire ne l'a pas renationalisée. Les ouvriers sont prêts à reprendre, elle était rentable. C'était la seule production de bouteilles d'oxygène pour nos hôpitaux, pour nos ambulances, de l'Union européenne.
Et comment vous expliquez ça, Nicolas Dupont-Aignan? Parce que
c'est incompréhensible, oui.
Bruno Le Maire, son action.
Bruno Le Maire, je pense que c'est de l'idéologie.
Il vient plutôt de votre camp, historiquement, de la droite républicaine,
c'est
comme
un,
on dit.
C'est un traître.
C'est un traître, selon vous, Bruno Le Maire?
Ah oui, à la nation, oui. Quand Bruno Le Maire refuse de renationaliser Luxfer, pourquoi il refuse? Je voudrais savoir. Soit c'est par idéologie, c'est-à-dire que l'État ne doit pas intervenir dans l'économie. Soit c'est parce qu'il ne veut pas mécontenter l'entreprise qui aujourd'hui a le monopole en Europe, qui est une entreprise britannique, avec des fonds, je ne sais plus de quel pays. Mais il y a une explication, moi, qu'on m'explique. Mais moi j'en ai assez, si vous voulez, je vais vous parler franchement. J'en ai assez de m'apitoyer sur ces dirigeants qui nous ont trahis et qui affaiblissent le pays. Je dis aux Français, ça ne sert à rien de critiquer, qu'est-ce qu'on propose?
L'arrêt de l'immigration, ce serait favorable, selon vous, à la relance économique de la France?
Bien sûr.
Vous y pensez?
Mais bien sûr, mais je le propose. Vous savez, il y a un nombre de chômeurs incalculable dans notre pays, on est à plus de 6 millions. Dedans, il y a beaucoup d'étrangers en situation régulière qui sont au chômage. Il y a plus de chômeurs du côté des étrangers. Donc, est-ce qu'il ne faut pas d'abord assimiler avant de continuer à faire venir des étrangers? Nous avons le record d'immigration sous Emmanuel Macron par an. Immigration légale, plus de 200 000. Et je ne parle pas de l'immigration illégale. Si vous comptez l'ensemble, 300 000, 400 000 personnes par an. Si vous comptez en 10 ans, ça fait 4 millions. Alors, il y a des départs, il y a des retours. Après, on peut discuter des heures. Est-ce qu'il y a 1 million net, 2 millions net, 3 millions net? Mais vous rendez compte déjà...
Pensez pas que l'immigration peut enrichir aussi la France?
Non, mais attendez. Le côté l'immigration enrichit la France, je crois que tout le monde a compris que c'était fini. Il y a certains étrangers qui respectent nos lois, qui travaillent, qui apportent à la France. Et j'ai jamais mis en cause cet apport. En revanche, ce sont les premiers d'ailleurs à être victimes de l'immigration excessive. Parce qu'ils veulent s'intégrer et... les Français qui habitent en France les considèrent tous pareils parce qu'ils voient bien qu'il y a des dégâts. Donc, si on veut assimiler, il faut stopper l'immigration. J'ai proposé un moratoire sur le regroupement familial et j'ai proposé, parce qu'il faut être concret, la suppression du droit du sol. On ne peut plus continuer ainsi. Il faut une pause. Il faut parallèlement assimiler et il faut enfin, excusez-moi, je vais être provocateur, mais je le pense, ceux qui ne sont pas contents de vivre en France, ceux qui veulent nous imposer la charia, ceux qui sont malheureux parce qu'ils sont en France. Mais moi, je leur dis une chose très simple. Ben, vous pouvez repartir. Et on peut même vous aider à repartir. Et ce sera un des points que j'aborderai le 26 dans mon discours. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, si on veut bien assimiler...
C'est-à-dire des reconduites à la frontière, quoi.
Pas seulement des...
Mais pour
les clandestins,
sont...
attendez, deux choses. Les clandestins devraient être reconduits. Aujourd'hui, 80% ne sont pas reconduits. Ça, c'est élémentaire. Vous violez la loi républicaine, vous êtes reconduit. Mais les gens qui sont malheureux en France, qui passent leur vie à critiquer la France, pourquoi ils restent? Pour les allocations, peut-être. Alors, il faut dire stop. Ils repartent. Et on est prêt à les aider. Mais ils doivent repartir. On ne peut pas continuer comme ça.
Eh bien justement, on va continuer à en parler, Nicolas Dupont-Aignan. On va parler également de la fraude sociale, de l'insécurité, puis bien sûr de votre avenir politique. Nous sommes sur Sud Radio dans les Incorrectibles, toujours en direct. On est ensemble encore pendant une petite demi-heure. À tout de suite.
Sud Radio, les Incorrectibles. Éric Morillo.
De retour dans les Incorrectibles sur Sud Radio en direct. Vous êtes nombreux à nous suivre également sur les réseaux sociaux et à nous apostropher à l'occasion de la venue ce dimanche de Nicolas Dupont-Aignan. Il est président de Debout la France qui tient ses universités d'été le 26 septembre prochain au Cirque d'hiver à Paris. Alors juste avant bien sûr de parler d'un autre sujet d'importance, l'insécurité et les incivilités, un petit mot sur cette fraude sociale. La Cour des comptes indique qu'elle pourrait s'élever à 14 milliards d'euros par an. Vous dites, nous alertons pourtant depuis plusieurs années sur l'emploi l'ampleur de ce détournement d'argent public. Quand agirons-nous pour enfin récupérer notre argent ?
Alors attention, la fraude, la Cour des comptes parle d'un milliard. Et c'est le rapport parlementaire Brindeau parle de 14, même 40, de 14
oui,
à 49.
Oui, la Cour des comptes reconnaître incapable de chiffrer la fraude sociale, ce qui est encore pire.
C'est extravagant.
Ce qui est hallucinant.
Non mais c'est hallucinant. À quoi on paye des magistrats chers et bon, ils travaillent. Mais alors, c'est très intéressant.
C'est symbolique. Qui en bénéficie, selon vous, de cette
fraude ? C'est symbolique. Non, mais c'est quand même symbolique. La Cour des comptes, le seul sujet où elle n'est pas capable de chiffrer, c'est la fraude. C'est-à-dire que la Cour des comptes, elle est capable de faire des chiffres sur les retraites. Nos retraités ont trop d'argent, les chômeurs ont trop d'argent.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Je veux dire par là que la Cour des comptes, quand il s'agit de réduire les pensions de retraite des pauvres Français qui n'en peuvent plus, elle est là. Elle est au service du pouvoir. Mais quand il s'agit...
Vous voulez dire que c'est tellement plus simple de faire payer plus
bien
que vous dites, les honnêtes gens qui bossent et de progressivement détruire leur système social au lieu de lutter
mais
contre
bien
les
évidemment.
Fraudeurs.
Et ça fait des années que je donne un mode d'emploi. Avec moi au pouvoir, je peux vous assurer, on récupère la première année 10 milliards. 10 milliards.
Mais comment vous faites ?
Les cartes vitales, on les change toutes. On met biométrique comme le passeport. Chaque Français ira rendre sa carte vitale. Alors, ça sera progressivement, département après département.
Vous voyez, ce couple qui a obtenu un million d'euros, enfin, c'est hallucinant.
Chaque Français rendra sa carte vitale. Ça prendra un an ou deux. Je ne vais pas vous le dire qu'on fera ça en deux jours.
Ça va peut-être coûter beaucoup aussi.
Non, mais ça coûtera un peu d'argent. Mais rassurez-vous, comme on va supprimer 2 millions de fausses cartes vitales, on va économiser au moins 15 milliards par an. Ça prendra le temps. Écoutez, en mairie, j'ai été maire pendant des années, on a bien été capable de nous faire faire les passeports en mairie. On met son pouce, il y a tout un système électronique, on y arrive très bien. Pourquoi on n'y arriverait pas sur les cartes vitales ? Et nous les donnerons aux mairies. Et ce sont les mairies qui feront comme pour les passeports, l'État subventionnera la mairie pour ça. Et je reverrai toutes les cartes vitales, c'est la seule solution. Ça, c'est 10 milliards au minimum. Les pensions de retraite à l'étranger, 6 milliards par an, on sait qu'il y a à peu près 15% de gens déjà morts. 1 milliard de perdus. Moi, je vous trouve vraiment, entre 15 et 20 milliards de fraude sociale, mais demain matin, quand je dis demain matin, c'est dans les 2-3 ans. C'est énorme comme économie. Et là, vous n'avez plus besoin de réforme des retraites. Voilà. Donc, il y a un moment, il faut choisir. Mais la Cour des comptes préfère sans aucun doute taper sur les retraités, taper sur les chômeurs, taper sur les gens qui...
Vous voulez dire qu'elle n'est pas indépendante, la Cour des comptes ?
Non, mais c'est pas qu'elle n'est pas indépendante. C'est que c'est tellement plus facile de s'attaquer aux honnêtes gens que de s'attaquer aux voyous. Voilà la réalité de notre pays.
Alors,
et ça fait 20 ans que ça dure, j'accuse pas ce gouvernement. Ça fait 20 ans que ça dure. Et il est temps de remettre, c'est l'argent des Français, c'est la sueur des Français. Eh bien, on doit le gérer avec parcimonie, avec économie, comme son propre budget.
Alors, en parlant justement des voyous, on va parler à présent de ce sujet phare du moment, les incivilités, l'insécurité. Vous pensez, comme notre ministre de la Justice, que c'est un sentiment d'insécurité qui prédomine avant
d'abord,
d'être vraiment
l'augmentation de la délinquance ? D'abord, je ne supporte plus le terme d'incivilité. Parce que quand vous tuez, quand vous voyez des gens tués gratuitement, arracher les colliers dans Paris. Le
Donc là, vous parlez d'ensauvagement comme Gérald Darmanin ?
Mais bien évidemment. Mais la question, c'est pas d'en parler. C'est d'agir et on sait ce qu'il faut faire.
Alors, je sais pas
si vous
avez
renvoie,
vu,
mais vraiment pour nos auditeurs, sur le site Debout la France, on avait, à la présidentielle, j'avais proposé 68 mesures avec les meilleurs acteurs de sécurité. On sait ce qu'il faut faire. Ça se fait en Allemagne, ça se fait en Angleterre, ça se fait aux États-Unis.
Mais quoi faire là, par exemple,
mais
Nicolas
Dupont-Aignan,
il y a deux derniers faits en date. Alors d'abord, il y a l'ancien sélectionneur de l'équipe de France de football, Raymond Domenech. Il s'est fait insulter et traiter, je cite, de sale bâtard. C'était dans le métro parisien par deux individus à qui il avait demandé de remettre leur masque car il y avait une personne âgée et vulnérable face à eux. Là, c'est pas des incivilités, bien sûr, mais comment faire pour agir contre cela ?
De toute façon, il y a tellement de choses à faire. Première chose, il faut rétablir la chaîne pénale. À chaque délit, une peine appliquée. Or, il y a 100 000 peines inappliquées en France. Or, à cause des lois votées et du laxisme de certains magistrats, les peines sont dérisoires. Donc, je réclame des peines planchées et je réclame,
alors,
et je propose, j'y viens, pour les récidivistes, le doublement de la peine à chaque récidive, comme aux États-Unis. Alors là, ça va faire mal.
Alors,
parce que la personne qui vole une fois, si elle vole deux fois, on double la peine. Et si elles volent trois fois, on triple la peine. Et c'est la seule méthode. Et je propose de faire adopter cette mesure par référendum. Parce que vous n'arriverez à dissuader les délinquants que s'il y a la sévérité de la peine, que s'il y a la peine de prison après, et que si on rétablit une chaîne pénale, voilà, c'est la seule solution.
Alors il y a eu cette effroyable agression.
C'est ce qui s'est passé à New York, la théorie du tolérance zéro, la théorie du carreau cassé. À chaque délit, une peine proportionnée, bien sûr, immédiate, rapide.
Alors, dans les faits, il y a eu cette effroyable agression filmée que vous avez sans doute vue de la jeune fille le 7 septembre dernier à Reims. Quatre mineurs ont été mis en examen depuis, dont l'auteur présumé des faits, un adolescent qui, on le rappelle, a saisi donc cette jeune fille de 14 ans par le cou. C'était devant le collège Saint-Rémy de Reims avant de la faire chuter au sol, puis de la frapper à plusieurs reprises avec ses bras et ses pieds, lui tirer les cheveux, le tout. Ce qui était incroyable, filmé par des personne, hein, puisque la vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux. Trois autres mineurs, un garçon et deux filles, ont donc été également mis en examen. L'un pour enregistrement des faits, les deux autres pour diffusion des images. Deux d'entre eux sont également mis en examen pour non-assistance à mineurs en péril. Qu'est-ce que cela dit notre société, selon vous, Nicolas Dupont-Aignan, surtout notre jeunesse ?
D'abord, c'est tragique, mais il faut savoir la suite. La suite, c'est que vous verrez qu'ils n'auront quasiment rien. Parce que la justice des mineurs en France est toujours sous l'ordonnance de 45, qui est d'un laxisme inimaginable. Donc, comment voulez-vous que les mineurs puissent apprendre s'il n'y a jamais de sanctions ? Premier point. Deuxième point, ça se joue dans la famille. Dans ma ville, hier, il y a longtemps, il y a 10 ans, j'ai supprimé les allocations sociales facultatives de la municipalité pour les familles dont les enfants se livraient à des actes de violence ou de délinquance. Au début, tout le monde a crié. Et un jour, j'ai un jeune qui est venu me voir et qui m'a remercié. Parce qu'on a mis le holà très jeune. Ce jeune de 13 ans, peut-être qu'à 10 ans, on n'a pas mis la limite.
Alors, donc, quand on ne met jamais les limites... Cette jeune fille, il a été placé sous contrôle judiciaire, il risque 3 ans et demi de prison dans les faits.
Il n'aura rien du tout,
vous verrez. C'est insuffisant pour vous, même si il encourt cette
malheureusement,
peine.
On vient après.
Mais qu'est-ce qu'on doit faire, sanctionner les parents ?
Mais on doit bien évidemment sanctionner et retirer les allocations familiales. L'allocation de rentrée scolaire. On va parler cash. On a délivré des millions, des centaines de millions d'allocations de rentrée scolaire. J'ai un enseignant hier qui me disait, on voit arriver des gamins, ils n'ont même pas de cahier, de stylo, parce que les parents ont acheté un iPhone ou un écran au supermarché du coin. Enfin, faut arrêter. Il faut arrêter de distribuer l'argent des Français sans cohérence de comportement. Il faut reprendre à tous les étages les limites, les repères. Ça sera long. Il faut aussi jouer sur l'éducation nationale.
Marine Le Pen dit que Dupond-Moretti, c'est pire que Taubira. Vous dites que c'est pire que Belloubet. Il ne fait pas que défendre les délinquants et nie les violences quotidiennes que subissent les Français. Voilà
tout le monde l'a compris. La question majeure, au jour d'aujourd'hui, c'est d'expliquer à nos concitoyens qu'on peut faire autrement par une politique sérieuse qui prendra du temps. Moi, je ne vais pas vous dire que si j'étais au pouvoir demain matin, il n'y aurait plus d'ensauvagement dans l'année. Ce n'est pas vrai. En revanche, je peux vous dire qu'il y a des mesures qui sont qui existe, qu'on peut prendre.
Donc on récapitule, vous parlez de supprimer le droit du sol pour donc ceux
alors
qui...
Alors ça c'est un autre
c'est
affaire.
C'est pour les délinquants qui seraient...
Alors non, c'est autre chose. Ce que je pense, d'abord, il y a les mesures de sévérité, minimum, enfin même pas de sévérité.
De déchoir de la nationalité les criminels alors, binationaux,
après,
d'expulser
des étrangers.
Les délinquants lorsqu'ils sont étrangers,
alors,
c'est
oui.
ça.
Alors après, il y a des délinquants...
Donc pour vous, délinquants, ça rime la plupart du temps
non.
avec...
Non, c'est pas vrai.
Jeunes issus d'immigration ou
alors,
pas
deux choses. Il y a les délinquants. Dans les délinquants, il y a une bonne partie qui sont étrangers. Bonne partie, grande partie, ou alors après, les chiffres...
Enfin, le Rassemblement national souligne souvent cette corrélation. Vous la faites pas ?
Je la fais. Il y en a 22% en prison. Voilà, 22% des détenus sont étrangers. Et puis, il y en a beaucoup d'origine étrangère. Donc, ça veut bien dire qu'il y a un problème d'assimilation. Mais tous les délinquants ne sont pas étrangers. Moi, je ne dirais jamais ça. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire
vous ne parlez pas d'un basculement de culture, Jean Messia, du Rassemblement National, mais cette agression de la jeune fille de Reims sur le compte du basculement de culture. Tabasser une femme serait davantage, je cite, l'apanage des cultures islamiques, maghrébines, subsahariennes, pour reprendre ses propos, c'était sur CNews, auquel il ajoute, quand on a soutenu un changement du peuple, il ne faut pas s'étonner du changement de culture. Vous n'êtes pas d'accord
oui,
avec lui ?
Oui et non. Oui, parce que c'est souvent vrai.
Ah, c'est
non,
un peu en même temps, a... version
mais non, mais parce
nationale.
Que c'est la vérité. Vous avez des gens, moi j'en ai assez que toutes les personnes soi-disant d'origine étrangère seraient toutes délinquantes, tabassant les jeunes filles et tout, c'est pas vrai. Vous avez des gens qui sont intégrés, qui sont assimilés. Mais vous en avez une très grande partie, ou une partie importante, qui ne s'assimile pas. J'estime que les étrangers qui sont délinquants doivent quitter notre territoire. C'est Nicolas Sarkozy, souvenez-vous, qui a supprimé la double peine. Ça a été une grave erreur. Il y a 22% de délinquants étrangers dans nos prisons qui sont souvent des multirécidivistes, notamment trafiquants de drogue. J'estime qu'ils doivent être expulsés au terme de leur peine. Mais pour ça, il faut contrôler nos frontières, ce que refusent la plupart des partis. Deuxième point, j'estime que pour des Français d'origine étrangère, inassimilables, qui ne sont que dans la haine et la délinquance, et qui commettent des actes graves, il doit y avoir déchéance de nationalité, ils doivent repartir dans leur pays d'origine.
Alors, vous
si déjà on faisait ça, ce serait pas mal.
Parlons justement...
Et j'estime, dernier point, qu'il y a beaucoup de personnes d'origine étrangère qui s'assimilent, qui sont des honnêtes gens, et qui ne doivent pas être mis dans le même sac. Et que je ne veux pas qu'on rentre dans une guerre de civilisation inutile.
Vous évoquez
si déjà on faisait le boulot que je propose, je vous assure que nos banlieues iraient mieux. Et qu'on lutte vraiment contre le trafic de drogue, j'insiste, en bas de l'échelle, mais aussi au sommet. Et j'aimerais bien qu'on s'intéresse à l'argent du trafic de drogue dans notre société et au recyclage du trafic de l'argent du trafic de drogue.
Juste un mot, vous évoquez dans un entretien aux fameux Valeurs Actuelles dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, je cite, des islamo-racailles qui, faute de réponse ferme du gouvernement, finiront par imposer, je vous cite, la charia en France. Vous pensez réellement, Nicolas Dupont-Aignan, que le gouvernement laisse prospérer l'islamisme et le terrorisme sur notre sol ?
Je pense que le gouvernement ne prend pas, et c'est pas le premier, les mesures qui s'imposent pour mettre fin à la gangrène d'un islamisme radical qui pourrit le pays. Je pense notamment qu'il faut fermer les mosquées salafistes, il y en a 120 en France. Je pense qu'il faut vraiment aller beaucoup plus loin dans l'arrêt des prêches de haine qui déconsidèrent totalement le culte musulman, parce qu'il y a aussi des mosquées qui sont très correctes et il y a des imams qui ne prêchent pas la haine. Donc
vous êtes pour l'interdiction du port du voile dans l'espace public, vous ?
Dans les services publics.
Dans les services
pas dans l'espace public, dans les services publics. J'estime que dans l'entreprise, à la sécurité sociale, on ne doit pas porter de signes extérieurs de religion. Mais encore une fois, là aussi, c'est un sujet grave. Je pense que parce qu'on n'a pas été sévère vis-à-vis des fondamentalistes, on est en train d'installer un clivage malsain dans notre société. Il y a des Français musulmans qui respectent tout à fait les lois de la République et qui font partie de la République.
Qu'est-ce que vous avez pensé de ce sondage IFOP commandé par Charlie Hebdo qui a suscité de nombreuses réactions, notamment sur le pourcentage des jeunes musulmans qui ne connaissent pas l'attentat
contre les auteurs de
ce magazine ?
C'est-à-dire que vous avez heureusement une partie des Français musulmans qui sont tout à fait assimilés, et heureusement, mais vous en avez une forte partie et qui progresse, et notamment chez les jeunes, parce qu'on a laissé la gangrène de prédications islamistes, qui sont parfois interdites même dans des pays arabes. Donc, je voudrais qu'on revienne au bon sens, tout simplement. Mais pour ça, pardonnez-moi, il faudrait peut-être cesser certaines relations financières avec certains pays comme le Qatar, qui financent ces mosquées.
Mais...
Et j'aimerais qu'on prenne une décision que je propose depuis un certain nombre d'années, qui est l'interdiction de fonds étrangers pour nos lieux de culte, pour toutes les religions.
Mais alors pardon Nicolas Dupont-Aignan, quand je vous entends ici sur ce plateau, j'ai reçu pas mal de représentants du Rassemblement National, j'ai envie de vous demander qu'est-ce qui vous différencie là-dessus.
Demandez-leur, mais moi je suis ravi qu'on pense la même chose, et d'ailleurs il y a des républicains qui pensent la même chose, et il y a des gens de la gauche qui pensent la même chose.
Parce qu'il n'y en a plus beaucoup de républicains.
Ben non, c'est normal, puisque leurs dirigeants ont fait une mauvaise politique pendant des années. Beaucoup sont à Debout la France. Donc, moi ce que je considère, et vous le savez très bien, c'est qu'il faut une large union de tous les amoureux de la France qui pensent la même chose.
Ils ont des droites.
C'est pas que des droites, parce qu'il y a une droite qui soutient Macron. C'est l'union des patriotes et des républicains qui veulent changer le pays, dire le calme et la sérénité, et qui veulent gagner. Et c'est pourquoi je propose une primaire pour choisir le meilleur candidat à la présidentielle.
Eh bien écoutez, ça va être l'objet de la dernière partie de cette émission. Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, à l'occasion des universités de votre mouvement qui se tiennent le 26 septembre prochain au Cirque d'Hiver à Paris. Notre invité dans les Incorrectibles sur Sud Radio. On revient dans un instant et on parlera justement de cet avenir politique de Nicolas Dupont-Aignan. À tout de suite.
Sud Radio, les Incorrectibles. Éric Morillo.
De retour dans les Incorrectibles, toujours en direct avec notre invité, c'est Nicolas Dupont-Aignan à l'occasion des prochaines universités d'été de son mouvement Debout la France qui se tiendront le 26 septembre prochain à Paris au Cirque d'Hiver. Alors c'est l'occasion de parler évidemment de cet avenir personnel, politique. Bon, Nicolas Dupont-Aignan, on vous voit à chaque élection présidentielle revenir. Vous y croyez toujours à cet avenir, à la tête du pays ? Vous pensez que vous avez une chance de devenir un jour président de la République ?
C'est aux Français de le décider. Ce que je crois... En tout cas, au jour d'aujourd'hui,
Vous serez candidat en 2022 ?
Je ne sais pas encore, vous verrez.
Mais là, bon, c'est un secret de Polichinelle, vous allez...
Je ne dis rien, parce qu'on a nos universités qui en décideront, on verra. Mais l'enjeu n'est pas là. J'ai réclamé une primaire des patriotes et des républicains qui veulent, dès 2022, choisir le meilleur candidat pour battre Macron. Ce que je suis hanté, mais vraiment. Parce que je ne veux pas voir Emmanuel Macron réélu, et j'entends, chez des gens qui lui sont hostiles, une petite musique qui m'inquiète, qui consiste à dire « Ah, on ne pourra pas gagner en 2022, il va y avoir à nouveau Marine Le Pen, on va perdre à nouveau.
Bah »
Et
oui,
puis,
attendez,
je finis mon raisonnement. Eh bien, on va attendre 2027. Eh bien, je dis à tous les gens qui pensent ça, c'est de la prophétie autoréalisatrice, si on dit ça, on va avoir Macron 50 plus et le pays va être mort. On sera en guerre civile. Donc, je dis aux Français une chose très simple. Je leur dis, on peut battre Emmanuel Macron. Il est minoritaire dans son propre pays. Mais pour battre Emmanuel Macron, il faut un bon candidat qui soit capable de le battre.
Marine Le Pen, vous ne la croyez pas bonne candidate pour être capable de le battre ?
Je vais vous répondre. Il faut un bon projet capable de convaincre une majorité de Français. Hein ? Et il faut être capable de rassembler. Et ce que je dis, c'est que la seule façon de choisir le meilleur candidat capable de battre Macron, c'est de demander à notre électorat, un an avant la présidentielle, de ne pas attendre le premier tour. Parce que j'ai...
Donc de faire des primaires, c'est ça ?
Faire une primaire.
Mais multipartie.
Multipartie. Tous ceux qui veulent dégager Macron et qui sont patriotes, qui aiment la France et qui ne veulent pas être soumis à l'Union européenne. Ça peut... Il y aura du Rassemblement National, Debout la France, des gens des Républicains qui ne veulent pas soutenir Macron, parce que n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de Républicains qui passent vers Macron. Vous avez entendu Estrosi, les autres. Moi, j'étais à l'UMP à l'époque. J'ai quitté...
Ça vous inspire quoi, ça, Estrosi qui appelle?
Mais c'est normal, ils sont d'accord avec la politique d'Emmanuel Macron. Ils ont voté tous les traités européens. J'avais quitté l'UMP, souvenez-vous, après le référendum de 2005, parce que je considérais qu'à partir du moment où on était soumis à Bruxelles, on ne pouvait pas régler les problèmes de sécurité et d'emploi. J'ai été cohérent bien avant les autres. J'ai soutenu Marine Le Pen au deuxième tour de la présidentielle, donc on ne peut pas m'accuser d'avoir été un diviseur.
Bah oui, mais simplement,
ce qui a capoté, c'est les Français ont pensé qu'elle n'en était pas capable. Et ce que je dis aujourd'hui, c'est que ce n'est pas à Macron et aux médias dominants de choisir Marine Le Pen pour faire gagner Macron. C'est aux électeurs...
Enfin, vous voyez bien quand même qu'aux élections européennes, c'était son parti qui était en tête,
oui,
d'ailleurs.
Oui, attendez, il y a la moitié des Français qui n'ont pas voté. Et il y a eu une propagande incroyable, Macron... Le Pen.
Enfin, en général, c'est le suiveur qui rejoint le leader, dans l'opposition, non ?
À la condition qu'il gagne. Et je l'ai fait. Et j'étais le seul à le faire.
Et vous seriez prêt à le refaire si une telle situation se reproduisait ?
Mais je demande justement, je veux éviter, je le dis franchement, je pense qu'un nouveau duel Macron-Le Pen aboutirait à la victoire de Macron. Et je sais que des millions de Français ne veulent pas perdre. Donc, j'ai dit à Marine Le Pen une chose simple. Je lui ai dit que si elle pensait gagner au deuxième tour, cette fois-ci, elle ne devait pas avoir peur de se confronter à son propre électorat. Si Marine Le Pen, dans une primaire, gagne, je m'inclinerai. Si c'est moi qui gagne, je serai candidat. Si c'est quelqu'un d'autre, je m'inclinerai. Mais je crois qu'il n'est pas bon pour Marine Le Pen de prendre en otage son électorat en disant « j'y vais coûte que coûte », alors même qu'elle a perdu deux fois et que beaucoup de Français patriotes pensent qu'elle ne peut pas gagner. Je pense que c'est aux électeurs...
Vous aussi, vous aviez perdu, puisque vous étiez quand même arrivé loin derrière
mais
elle.
Mais je ne dis pas moi, ouais, comme elle fait. Je dis, il faut cesser le jeu des égos. Il faut que tous ceux qui pensent pouvoir apporter à la France quelque chose se présentent.
Marion Maréchal, par exemple.
Si elle le souhaite.
Vous en pensez quoi de la position de Marion Maréchal ?
Mais je pense du bien de tout le monde. Moi, vous savez, vous ne me ferez pas dire du mal de Marine Le Pen, de Marion Maréchal, de M. Aubert. J'ai été à ses universités de rentrée. Je pense qu'il serait temps à droite, et au-delà de la droite, chez les patriotes, ceux qui aiment la France, et les républicains, il y en a qui viennent de gauche, la gauche républicaine, je pense qu'il serait temps qu'on arrête de se critiquer les uns les autres, et qu'on prenne le meilleur pour gagner. C'est pas moi qui vais décider qui est le meilleur, c'est pas vous, c'est pas les journalistes de BFM, c'est le peuple qui... Grâce à une primaire, comment Obama, quand il était démocrate, comment Trump, comment Johnson, en Angleterre, ont gagné ? Ils ont gagné parce qu'il y a eu un processus de sélection du meilleur. Or, je pense que si on continue chacun sa petite boutique, on perdra. j'ai un message d'union, je l'ai prouvé en 2017, donc personne ne peut me reprocher d'être dans la désunion, j'étais le seul à avoir le courage de soutenir. Mais je dis, aujourd'hui, que Marine Le Pen ne peut pas être autoproclamée candidate, parce que sinon, cela risque de faire passer Macron. Et je pense qu'il faut s'entendre sur un programme commun de salut public, produit en France, on va en parler à mes universités d'entrée, on en a parlé un peu aujourd'hui, rétablir l'ordre, inventer une nouvelle démocratie, utiliser le RIC, le référendum, consulter les Français.
T'es soutenu par les Gilets jaunes.
Et bien sûr, et c'était une bonne initiative. J'étais d'ailleurs un des seuls maires à le faire dans ma commune, quand j'étais maire, et bien longtemps.
Ça veut dire qu'un RIC sur la peine de mort, par exemple, vous seriez favorable ?
Mais bien sûr, et je veux un RIC sur l'Union européenne. Je veux un référendum...
Vous seriez pour un RIC sur la peine de mort ?
Mais bien sûr, et je suis pour un référendum sur l'Union européenne. Donc, moi, vous savez, je n'ai qu'une ambition, c'est qu'on sauve notre pays dès 2022. Je n'ai qu'une ambition, c'est qu'on ait un programme concret avec des propositions et qu'on dise aux Français on va s'en sortir. Et je n'ai qu'une ambition, c'est qu'on arrête la résignation. Parce que j'entends, et tout à l'heure c'est marrant, on peut le dire,
oui.
Vous pouvez le dire, vous regardiez la tablette, les commentaires, et il y avait un commentaire marrant d'un type qui disait « Mais monsieur Dupont-Aignan, pourquoi vous croire, une fois au pouvoir, vous serez comme les autres ?» Et ça, c'est le poison. Parce que quand il dit ça, je conçois qu'il le pense, mais si tout le monde dit ça, ça veut dire qu'on va se payer Macron jusqu'en 2027. Alors moi, je serais peut-être pas parfait, mais je pense qu'on sera meilleur que Macron. Et je dis aux Français qui m'écoutent, arrêtez le défaitisme. C'est dès 2022 qu'il faut en sortir. Sinon, on va subir notre destin. Bien sûr qu'il n'y a pas de héros parfait. Moi, je ne suis pas monsieur parfait. Personne n'est parfait. Mais il y a un choix à faire. Et moi, je ne veux pas qu'on ait 5 ans de plus de macronisme. Voilà, c'est tout. Et je pense que j'ai un beau projet à porter. Et j'espère qu'on le portera. Qui sera le candidat ? Je n'en sais rien aujourd'hui. Mais ce qui m'importe, c'est qu'on rétablisse l'ordre, qu'on produise en France, qu'on invente une nouvelle démocratie. Si on faisait déjà ça, ce serait peut-être pas mal.
Nicolas Dupont-Aignan, on arrive bientôt au terme de cette émission. Juste un mot sur, évidemment, la Covid-19 et sur ce soutien que vous donc accordez au professeur Raoult. Et vous ne comprenez pas la haine qu'il inspire à certains. Vous dénoncez celle du microcosme parisien. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'on cherche tant à le discréditer ? Des lobbies sont derrière ces attaques,
mais bien sûr, mais moi je le dis comme je le pense. Des professeurs payés par des entreprises pharmaceutiques, Gilead et les autres, ont voulu absolument tuer celui qui a essayé un médicament qui coûte rien, qui estime que ça marche. Je suis pas médecin, mais beaucoup de médecins estiment que ça marche. Il est prescrit dans le monde entier. Il a jamais été dangereux. Il est en vente depuis 70 ans. Il coûte rien. Et évidemment, ça gêne. Et donc, il a fallu l'abattre. Et ce qui est tragique dans cette affaire, c'est que le ministre, M. Véran, et le président de la République, qui a pourtant été le voir... Je ne sais pas s'il a été lui de... J'aimerais bien savoir, j'aimerais être une petite souris pour avoir écouté l'entretien et savoir pourquoi Emmanuel Macron y a été. Et est-ce qu'il ne lui a pas donné une boîte de plaquenil en douce donc, je n'ai aucune preuve. Hein. C'est une... j'imagine. Et le gouvernement français interdit la liberté de prescrire des médecins. Mais on est où ? Dans une république bananière. Et donc, je dis, je ne sais pas si le traitement du professeur Raoult est parfait. Je ne suis pas médecin. Mais je fais confiance dans les médecins et je n'aime pas qu'on accable quelqu'un qui a été courageux et qui a soigné des gens. Voilà. Je ne suis pas le défenseur, je n'ai jamais vu, mais je trouve ça indigne du pays, de la France, qui a été le pays des Lumières, de la science, de la recherche, qui est un grand pays et qui est devenu obscurantiste.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Nicolas Dupont-Aignan, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation dans Les Incorrectibles.
Merci.
Je rappelle que vous tenez vos universités d'été. Ce sera le 26 septembre prochain au Cirque d'hiver à Paris, dans lequel vous ferez un discours où vous annoncerez sans doute que vous serez candidat en 2022.
Qu'est-ce que vous en savez ? Vous en savez rien.
Ma petite...
vous en savez rien.
Une intuition comme celle-là. Wow. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci à Maxime Sénat à la réalisation, à Lara Lopez au digital, ainsi qu'à Céline Delabaume qui m'a aidé à préparer cette émission. Toutes nos émissions sont disponibles, je le rappelle, en replay vidéo sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Depuis la playlist Les Incorrectibles. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro des Incorrectibles. Ce sera dimanche prochain à 13h, toujours en direct. Et je recevrai à cette occasion Zineb El Razoui. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine à l'écoute de Sud Radio.